Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué.
Je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Elle prononce mal beaucoup de mots. Malgré qu'elle ait un gros vocabulaire, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'aider?
Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité dédié au langage chez l'enfant, je reçois dans mon cabinet Mélanie. Elle évoque avec nous ses questions concernant le développement du langage chez sa fille et toutes les questions qu'elle se pose. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Léa Elias, orthophoniste, spécialiste du langage chez l'enfant. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Mélanie se pose. Bonjour Mélanie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
Bonjour, merci de m'accueillir. En travaillant avec des enfants et en ayant une petite fille aussi, les questions majoritairement des parents se tournent autour de l'alimentation et du sommeil. Et c'est vrai qu'on parle peu du langage. Et quand vous m'avez proposé de venir ici, je me suis dit, c'est vrai que le langage, c'est un gros questionnement sur lequel il y a moins ou moins facilement de ressources. Et il y a énormément de questions. Tous les parents s'inquiètent à un moment donné. On se demande, est-ce que mon enfant est en retard? Est-ce que c'est normal qu'il dise pas ceci? Enfin, plein de questionnements quand même autour du langage. Et du coup, en effet, j'en ai qui me sont venus après coup, en y réfléchissant aussi bien sur ma fille que sur les enfants que j'accueille au quotidien dans mon travail.
Alors, quel âge a votre fille et qu'est-ce que vous faites pour accompagner des enfants?
Ma fille a 2 ans maintenant, un petit peu plus, 2 ans et 1 mois. Et je suis auxiliaire de puériculture en crèche, donc... Un public 0-3 ans, assez varié, aussi bien au niveau de l'âge que de l'évolution du langage, un grand panel.
Alors, pour revenir à votre fille, comment le langage se développe chez elle?
Alors, en ce moment, on est sur une explosion du langage, j'ai envie de dire. En fait, elle est très expansive au niveau du vocabulaire. Elle a énormément de vocabulaire assez varié, aussi bien en compréhension qu'en discussion. En fait, elle commence à faire des mini-phrases, mais... Il y a quand même des petites questions, toujours dans la prononciation, dans tout ce qui est écolalie, un petit peu les répétitions de mots. On lui a toujours parlé, en fait, on discute énormément avec elle. On ne lui fait pas répéter les mots sans raison. On répète nous, pour qu'elle les répète systématiquement elle-même. Et du coup, j'ai quand même quelques petites questions sur l'acquisition du langage qui persiste, malgré le fait que... Sans comparer, pour entendre les enfants, on dit toujours qu'il ne faut pas les comparer, qu'ils ont un développement différent. Mais voilà, on ne peut pas s'empêcher, en voyant les autres enfants évoluer, de se dire « Est-ce que c'est normal chez mon enfant, ce point-là ou ce point-là »
Vous avez le sentiment que ça serait anormal ou inquiétant chez votre fille?
Pas spécialement anormal ou inquiétant, mais savoir à quel moment donné il faut peut-être booster le langage, qu'est-ce qu'on peut mettre nous en place à la maison. Et à quel moment les difficultés doivent être prises en charge par des professionnels?
Bon, je vous propose qu'on en reparle avec Léa tout à l'heure. Comment ça s'est passé avant cette explosion? Vous soulignez qu'elle a beaucoup de vocabulaire. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour qu'elle développe tout ce vocabulaire?
Comme je vous dis, dès la naissance, en fait, on lui parlait. Des fois, ça paraît un peu idiot, un peu gaga de parler au bébé. On a toujours les gens autour de nous qui nous disent « mais tu lui parles, il ne comprend pas, il est tout petit ». Enfin. Et au final, on lui a toujours parlé, aussi bien moi que l'entourage. On lui dit les choses, on lui explique ce qui va se passer en amont. Et ça, je trouve que ça a pris une part assez importante et assez valorisante aussi pour elle, voilà, d'être considérée comme une personne et non comme un bébé objet, si je peux dire, au tout début. On lui explique les choses et aussi, on a mis en place le langage des signes, en fait, au tout départ. On va dire, dès les quelques premiers mois, sans forcément que ça ait de répercussions aussitôt. On faisait les gestes, nous, c'est devenu machinal sur quelques mots principaux. Maman, papa, dodo, changer la couche, voilà, les mots un petit peu quotidiens. Et elle a commencé à signer, au final, vers ses 11 mois, il me semble. Les premiers mots sont apparus vers 13 mois. Mais à part ça, je n'ai pas souvenir d'avoir mis autre chose en place. Si ce n'est peut-être l'alimentation, en fait. On a fait une diversification alimentaire qui a assez bien fonctionné, assez diversifiée. C'est une de mes questions. C'est aussi, est-ce que l'acquisition du repas, en fait, aussi bien avec les doigts, enfin, tout ce qui s'ensuit de la diversification alimentaire, est-ce que ça a une incidence sur l'acquisition du langage par la suite?
Oui, vous avez plutôt eu l'impression, finalement, le fait que cette diversification alimentaire se passe très bien, voilà, que ça a plutôt soutenu le développement de son langage.
C'est un des questionnements aussi, parce qu'on voit souvent associer les troubles alimentaires aux difficultés de langage. Donc voilà, c'est un petit peu, est-ce que c'est lié? Est-ce que la position de la langue, du palais? Enfin voilà, je ne suis pas spécialiste sur ce sujet-là, mais voilà, tout ça s'est très bien passé.
Quels ont été les premiers mots de votre fille?
Alors, il y a le fameux « maman » qu'on pense tous entendre au bout d'un moment. On ne sait jamais si c'est vraiment « maman » parce que ça a commencé par être « mam-mam ». Je ne sais pas si c'était vraiment « maman » du coup. Et au final, les mots d'après, c'était « papa » et « dodo ». Petit à petit est venu « mamie », enfin les petits mots du quotidien, puis les signes « merci encore ».
Est-ce que, du fait de l'explosion du langage et de son vocabulaire en ce moment, est-ce que votre fille continue de signer?
Alors non, plus maintenant. Elle a continué au départ pendant certains mois, je ne saurais plus vous dire combien, mais elle commençait à parler et dire les mots en même temps ou en intercalé, soit le signe, soit le mot. Mais maintenant, non, elle ne signe plus du tout.
Et dans les mots qu'elle acquiert, est-ce que ils sortent tout de suite de manière juste? Est-ce que voilà, il y a des erreurs, des tests avant? Et comment vous pouvez réagir vous par rapport à ça ou accompagner finalement des mots qui pourraient être mal prononcés?
Alors justement, c'est le grand questionnement du moment, si je peux dire, c'est qu'elle prononce mal beaucoup de mots, malgré qu'elle ait un gros vocabulaire et que nous on comprend maintenant avec le contexte, etc. Mais beaucoup de mots sont encore mal prononcés. Et c'est un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'aider? Donc nous, on les dit de la bonne façon, on les répète pas mal de mots. Si je peux vous donner des exemples, par exemple, le merci est toujours mémi. Il y a peut-être pour s'il te plaît ou pas long pour pantalon. Enfin voilà, plein de petits mots qu'on comprend malgré tout et qu'elle sait très bien qu'on les comprend. Mais j'avais un gros questionnement, c'est est-ce qu'elle n'a pas pris l'habitude de les dire comme ça? Et du coup, ça va être un peu plus long et peut-être un peu plus dur de les réparer, entre guillemets, de les redire correctement, malgré le fait qu'il manque quelques sons qu'elle n'arrive pas encore à prononcer aussi.
Est-ce que dans les enfants que vous accompagnez en crèche, est-ce que c'est des choses aussi que vous avez pu observer?
Alors le fameux pas long. Oui, tous les enfants, ou presque, disent « pas long » à la place de « pantalon ». Après, les autres mots, oui, il y a pas mal d'enfants qui ont des raccourcis entre certains mots un peu plus compliqués, ou les sons, les « feux », les « ceux », les « cheux », tout ça. Certains mots sont dits de la même façon par ma fille que par d'autres enfants. Et au final, c'est tellement différent entre chaque enfant que, en fonction de leur âge ou de leur évolution, c'est à différents stades, en fait. Il y a des enfants qui vont très mal prononcer dès le départ. Et puis, au bout de 2-3 mois, ça y est, c'est parti. Ils arrivent à bien les dire. Et au final, nous, j'ai l'impression qu'avec ma fille, on stagne un petit peu sur ces prononciations et que ça n'évolue pas. C'est pour ça que je mets des petites questions là-dessus. Mais j'imagine qu'à un moment donné, tous les enfants arrivent à prononcer correctement. C'est plus quelques pistes qui manquent aux parents, surtout pour accompagner les enfants sur ça.
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attentive? Là, je pense par exemple à la manière dont vous lui parlez ou vous parlez de manière générale ou à votre conjoint, au père de votre fille. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attentive pour soutenir le développement de son langage à elle?
En fait, on essaye de faire des phrases correctes. On n'a jamais utilisé les meumeux ou les toutous, enfin voilà, les fameux mots bébé gaga, entre guillemets. On a toujours fait attention à parler de manière correcte, même si c'est seulement la voix qui fluctue. En fait, on parle peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, le terme spécifique, un peu plus maternel, un peu plus aigu, un peu.
Mais l'intonation toujours, qui va changer.
Voilà, mais toujours avec un vocabulaire normal, courant. On essaie de pas trop parler en négation parce qu'on sait que chez les enfants, la négation, c'est compliqué à comprendre. Donc, faire des phrases plutôt à l'inverse de ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent, plutôt leur dire ce qu'il faut faire. Ne monte pas sur le canapé, voilà, on évite. On va plutôt lui dire assieds-toi sur le canapé. Voilà, surtout lui expliquer les choses, en fait. Lui parler comme à une personne normale, pas forcément à un bébé qui comprendrait pas les choses. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut expliquer aux parents. Je trouve aussi que c'est important de parler à son enfant et de pas attendre que l'enfant parle pour pouvoir lui parler.
Est-ce qu'en crèche, vous avez déjà pu observer justement des parents qui ne parlaient pas ou très peu à leur enfant et que ça avait pu avoir un impact sur leur enfant ?
Oui, énormément. Énormément, et en fait, c'est un peu compliqué de faire comprendre aux parents que leur enfant n'est pas qu'un simple bébé, qu'ils peuvent dialoguer avec eux, qu'ils peuvent éviter beaucoup de crises s'ils leur expliquent les choses. C'est vrai que c'est compliqué et certains parents, voilà, se trouvent un peu jugés, donc il faut trouver la bonne manière d'expliquer aux parents comment ils peuvent s'y prendre avec leurs enfants sans forcément leur dire quoi faire, mais donner des petites pistes, je pense, par-ci, par-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent une place d'incompréhension pour leurs parents lorsqu'ils font des colères ou ce qu'on appelle des caprices, même si voilà, il y a des bas là-dessus. Il y a toujours un besoin derrière que le parent ne comprend pas forcément. Et en lui expliquant les choses en amont, ça réglerait pas mal de stress ou de soucis que l'enfant peut rencontrer sur sa gestion des émotions.
Oui, là, vous dites bien l'importance de parler aux enfants. Au-delà de leur parler, est-ce que vous lisez des histoires à votre fille ?
Oui, j'ai toujours lu, quasiment, en fait, depuis ces 2 mois. On a mis en place un rituel pareil qui a fait débat autour de nous, où on nous disait « mais elle est trop petite, tu lis des histoires, ça sert à rien pour l'instant, elle comprend pas ». Et en fait, j'expliquais aussi que c'était pas forcément le fait de comprendre ce qu'il y avait dans l'histoire qui était intéressant pour le bébé, c'est surtout l'intonation de ma voix et le moment apaisant, parce que voilà, le moment du câlin dans les bras le soir avec l'histoire et ma voix un peu apaisante, et ben en fait ça a tout de suite plu. Et elle a fait ses nuits à 2 mois et en fait on s'est rendu compte que ce rituel était important, on l'a jamais enlevé. Et maintenant, en fait, tout ce qui a changé, c'est, si je peux dire, la position ou l'ordre du rituel, mais il y a toujours l'histoire le soir, tous les jours. Et quelle que soit la personne qui lit, si elle est gardée par quelqu'un, soit il y a une histoire, soit il y a une chanson, pour les personnes qui ne veulent pas forcément lire d'histoire. Mais oui, je trouve ça important aussi de mettre en place un rituel avec la voix du parent ou du proche. Et plus l'enfant grandit, évidemment, plus il va s'intéresser aux images. Au départ, voilà, le bébé ne voyait pas les images. J'étais forcément dans une autre position. Maintenant, voilà, ma fille réclame l'histoire. C'est elle qui va la choisir. Et puis, elle regarde les images, elle comprend le contenu. Et même parfois, dans la journée, elle va chercher un livre et elle lit toute seule.
Et est-ce que vous chantez, du coup, avec votre fille ?
Oui, aussi, oui. C'est vrai que les moments sont un peu plus rares parce que, bah voilà, dans la journée, je travaille, elle est gardée. Donc, les chansons, quand on y pense, quand on la garde le week-end, on sort. J'avais fait une petite boîte avec des chansons. Elle choisit elle-même, on chante ensemble. Mais quand on n'est pas chez nous le soir, ça m'arrive de ne pas prendre de livre parce que l'environnement n'est pas forcément adapté, c'est pas facile. Donc, on chante une chanson. On a toujours la même chanson pour ce rituel-là. Et voilà, c'est pareil, elle aime bien, elle la réclame maintenant, ça l'apaise.
Est-ce que vous avez des inquiétudes, Mélanie, pour la suite du développement du langage chez votre fille ?
Pas forcément d'inquiétude. Enfin voilà, je sais très bien que ça va se développer, que ça va, au bout d'un moment, tout se met au point. Mais c'est plutôt des questionnements sur les pistes qu'on pourrait, nous, utiliser pour l'accompagner. Par exemple, il lui manque certains sons qu'on n'arrive pas à lui faire prononcer pour l'instant. Les cheux, les feux, les ceux, en fait. On voit que c'est compliqué. Des fois, il y a des tentatives qui n'aboutissent pas et on ne voudrait pas la braquer en lui disant de répéter incessamment les mots qu'elle n'arrive pas à faire. Mais d'un autre côté, comment l'aider à acquérir ses sons sans lui demander de les répéter, en fait ? C'est un peu plus ce point-là. Et du coup, j'avais une autre question, c'est sur voilà, l'alimentation dont je parlais tout à l'heure, la possibilité de lien entre l'alimentation et le développement du langage. Léa confirmera ou pas si la langue se positionne mal ou des incidences sur le palais, des choses comme ça qui peuvent être un peu un biais au développement du langage parce qu'elle ne croque pas, en fait. Elle ne coupe pas les aliments sur le devant avec les incisives, mais sur le côté, elle mâchouille, si vous voulez. Donc voilà, c'est un petit peu un questionnement aussi sur les incidences que le quotidien peut avoir sur le développement du langage et les pistes qu'on peut apporter, nous, en tant que parents ou professionnels auprès des enfants.
Eh ben, je vous propose, Mélanie, merci pour votre témoignage, qu'on rejoigne Léa Elias. Bon, Bonjour Léa Elias.
Bonjour Mathilde.
Tu es orthophoniste, spécialisée dans l'accompagnement du langage et l'apprentissage de la lecture. Tu as créé de nombreux outils pour aider les parents et leurs enfants, ainsi que des formations aussi pour répondre à toutes les interrogations que les parents peuvent se poser. On peut aussi te suivre sur Instagram via ton compte @jeunemamanextraterrestre. Léa, quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage de Mélanie ?
J'aime toujours beaucoup entendre les mamans. Je trouve que c'est hyper riche, hyper pertinent. On voit voilà, qu'elle est vraiment à l'écoute de sa fille. C'est vraiment intéressant de toute la lecture qu'elle fait finalement de l'acquisition du langage, de comment tout ce qu'elle a pu vivre au quotidien fait qu'à l'heure actuelle, ça s'est bien développé. Je trouve que voilà, c'est une belle lecture du développement langagier de sa fille.
Du coup, pour répondre un peu aux plusieurs questions que Mélanie se pose, peut-être la première autour de l'alimentation et donc de l'impact de la diversification, de ce qui se passe dans la bouche, de comment la langue se positionne. Voilà, quels seraient tes éclairages sur cette question-là ?
Alors, il est certain que qu'un enfant qui développe bien tout ce qui se passe autour de l'alimentation, qui se diversifie bien, qui ne rencontre aucune difficulté, va pouvoir plus facilement développer le langage. Il faut se dire qu'effectivement, quand un enfant va avoir notamment ce qu'on appelle un trouble de l'oralité alimentaire, ça va être difficile pour lui puisque du coup, toute la sphère orale va être impactée. Ça va être des enfants qui vont avoir effectivement du mal à manger. Et finalement, la faim, le fait de se nourrir, c'est vraiment quelque chose de vital. Donc un enfant qui va rencontrer des difficultés pour s'alimenter va en règle générale rencontrer des difficultés pour le langage parce que finalement ils ne peuvent pas se concentrer sur les deux choses à la fois. Un enfant qui n'arrive pas à s'alimenter, qui peut parfois même faire des séjours en hospitalisation ou autre, forcément il va se concentrer là-dessus, sur cette difficulté, voilà. Et du coup, quand on ne rencontre pas de difficultés, on va voir des enfants qui développent bien le langage, mais attention quand même à ne pas faire trop de raccourcis, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui vont avoir des troubles de l'oralité alimentaire et qui vont quand même bien développer le langage. Comme toujours, il n'y a pas une seule règle, parce qu'on l'a dit, Mélanie l'a dit, tous les enfants sont différents et finalement se développent différemment.
Mais là, dans ce que tu dis par rapport aux troubles de l'oralité, c'est la question voilà, que l'enfant ne peut pas être sur tous les fronts. Voilà, c'est comme généralement, il développe plutôt la sphère motrice ou plutôt la sphère langagière. Et puis après, les choses se rééquilibrent en fonction des enfants. Ils ne peuvent pas tout traiter en même temps. En t'écoutant parler, je me disais finalement, on mâche les aliments, mais on mâche aussi les mots quand on parle. Techniquement, par rapport au positionnement de la langue ou à la manière dont on mastique les aliments, est-ce que ça a des répercussions sur l'articulation, voilà, sur la manière finalement dont on parle ?
Mais tout à fait. Effectivement, un enfant qui va avoir du mal à mâcher, qui va avoir du mal à monter sa langue, qui va avoir du mal au niveau des déplacements, finalement, des lèvres, de la bouche, de la langue, va rencontrer aussi des difficultés autour du langage.
Votre question d'après, Mélanie, c'était au sujet des sons. Vous évoquiez la difficulté peut-être pour votre fille de prononcer certains sons. Alors, est-ce que ça, c'est normal ?
C'est totalement normal. Il faut savoir que l'enfant, il a 6 ans pour acquérir l'ensemble des sons de la langue française. Alors effectivement, 6 ans, on peut se dire, c'est très long, mais finalement, les sons vont arriver petit à petit. On sait qu'il y a des sons qui vont arriver plus facilement, notamment les voyelles, on le voit souvent hein, chez les bébés qui vont faire A, O. Et puis ensuite, comme toujours, tous les enfants ne se développent pas de la même façon, et c'est pareil pour le langage, mais finalement, on sait que notamment les ch, les f sont les sons les plus compliqués de la langue française. Donc, c'est des sons qui vont arriver après. Un enfant, une enfant, là, pour le coup, de 2 ans qui dit palon pour pantalon, c'est totalement, totalement normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Effectivement, Mélanie, tu le disais aussi, mais tu le retrouves chez plein d'enfants qui ont le même âge que ta fille, ce qui veut bien dire finalement que c'est une étape qui va arriver chez de nombreux enfants.
Oui, donc tous ces mots raccourcis ou un peu transformés, ça fait partie des étapes du développement du langage.
Totalement, ça fait partie du développement langagier. Mmh.
Donc on ne s'inquiète pas avant 6 ans.
J'irai pas jusque-là, je dirais. Petite nuance, on dit qu'en fait l'enfant à 4 ans, il doit être compris à 100% du temps par des gens qui ne le connaissent pas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à 4 ans, l'enfant, il peut encore transformer des sons, donc par exemple dire cochon pour cochon, mais il faut que le reste du temps, il soit compris. Donc si à 4 ans, un enfant transforme encore beaucoup de mots, on n'hésite pas à voir son médecin traitant et éventuellement à consulter un orthophoniste. Mais avant 4 ans, en termes d'articulation, en tout cas, on ne s'affole pas.
Mélanie aussi évoquait la question des répétitions, des écholalies. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose de fréquent, de normal ?
Alors là, ça dépend vraiment de ce qu'elle appelle écolalie, finalement, parce que des fois, c'est juste, bah, elle répète après le parent, ce qui peut être totalement normal, ou est-ce qu'elle répète de nombreuses fois un mot quand elle parle? Enfin, finalement, quel est le sens de ce terme écolalie que tu as utilisé pour parler du développement du langage de ta fille?
Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête, en fait. Les écolalies pures, en fait, qui me semblent sont normales dans le développement du langage. Donc, les enfants, quand on lit une histoire, ils vont tous répéter le dernier mot de chaque phrase. En milieu professionnel, on le voit quasiment sur tous les enfants à un moment donné de leur développement. Donc, il me semble que c'est normal. Et en parallèle, alors j'ai chez ma fille aussi et chez d'autres enfants, des mots qu'ils répètent en boucle. Ils vont avoir un mot en tête ou une question. Enfin voilà, on va leur répondre à ce mot ou à cette question. Et ils vont garder ce mot. Et en fait, même sans nous écouter. Enfin, j'ai l'impression qu'elles, des fois, elles ne m'écoutent pas. Elles me disent, voilà, voiture, elle a vu une voiture sur la route. Je vais dire, oui, il y a des voitures, etc. Et en fait, on passe à autre chose. Et elle va répéter voiture en boucle pendant 10 minutes, 5 minutes. En fait, elle a que ça en tête et je sais pas, voilà, si. Est-ce qu'elle m'a écouté? Est-ce qu'elle m'a entendu? Ou est-ce qu'elle est dans sa bulle? Elle pense à autre chose? Et en fait, des fois, c'est. Et agaçant et un petit peu inquiétant. On se dit, mais est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as entendu? Voilà. Est-ce que c'est normal qu'ils répètent des mots comme ça, hors contexte, en fait?
Est-ce que c'est normal? Il faut vraiment voir le contexte. Il faut voir si ça se reproduit de nombreuses fois. Peut-être que c'est aussi parce que c'est un mot qu'elle a acquis il y a peu. Et on voit ça souvent, voilà, chez les enfants qui vont acquérir un nouveau mot et qui donc vont s'entraîner encore et encore et encore. Donc voilà, encore une fois, là, ça dépend du contexte. Si vraiment c'est systématique ou si ça revient de nombreuses fois, il faudra peut-être effectivement voir et consulter un médecin pour qu'il puisse donner un avis. Mais comme ça, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour moi, on est plus sur une exploration du langage qu'autre chose.
Mais des répétitions, du coup, de mots, ça peut être un signe de bégaiement, par exemple ?
Effectivement. Et donc là, c'est pas ma spécialité, donc je mesure mes mots et je pèse mes mots. Mais effectivement, ça peut être un signe éventuel de bégaiement. Ce qu'on dit aux parents, c'est de regarder si effectivement il y a des signes de manifestation physique, par exemple, si l'enfant semble en difficulté quand c'est le cas, ou si juste, voilà, elle est en train de répéter le mot parce que ça lui fait finalement plaisir. Donc c'est vraiment le comportement de l'enfant qui va pouvoir aussi nous orienter sur est-ce que c'est normal, une exploration du langage normal, ou est-ce que ça peut éventuellement être le début d'un bégaiement.
Mélanie, est-ce que vous avez d'autres questions? Pour Léa.
Oui, les histoires de langage complètement incompréhensibles. En fait, des enfants que j'accueille régulièrement sur mon lieu de travail parlent beaucoup, énormément, mais on ne comprend strictement aucun mot. En fait, ils ont leur propre langage. Des fois, on demande aux parents s'ils parlent une autre langue à la maison ou si un contexte spécifique. D'un autre langage qu'on nous on ne connaîtrait pas et en fait non les parents ne comprennent pas non plus et voilà c'est arrivé plusieurs fois que on accueille des enfants comme ça qui parlent énormément, ils veulent discuter avec nous, il y a des émotions derrière, il y a des réactions mais on ne comprend rien du tout.
En général, ils ont quel âge ?
Entre 2 ans et 2 ans et demi.
C'est pas évident hein, parce que on le disait mais le langage se développe finalement en de nombreuses années. Effectivement, il y a des enfants qui vont développer le langage comme cela, en faisant une sorte de jargon, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de communiquer, mais bah, ils n'ont pas les outils pour. Donc, il faut voir si des mots apparaissent quand même, parce que ça reste quand même un signe d'appel et un signe d'alerte. C'est-à-dire que s'ils ne font que jargonner à 2 ans, 2 ans et demi, qu'il n'y a aucun mot, ça peut être potentiellement aussi le signe d'une difficulté à entrer dans le langage.
Même si pour autant, ils parlent beaucoup.
C'est ça, à partir du moment où ils parlent beaucoup, mais finalement que personne ne peut comprendre, ça veut dire que toutes ces tentatives de communication, finalement, échouent. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, voilà, l'enfant, il va s'agacer, parce que pour lui, peut-être, le message est clair, limpide, et finalement, ben, il voit un adulte qui ne le comprend pas. Donc, vraiment, garder à l'esprit que c'est notamment un des signaux d'appel où on peut se dire, ben, peut-être que ce serait bien d'aller voir le médecin traitant, peut-être de consulter un orthophoniste pour faire le point sur la situation. On dit qu'à 3 ans, pour donner du coup un petit repère, à 3 ans, l'enfant, normalement, doit être compris à 75% du temps. Alors, entre 2 ans et demi et 3 ans, hein, il reste quelques mois, mais si on est face à un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, qu'on ne comprend pas et pour lequel il n'y a aucun mot, pour moi, c'est vraiment un signal d'appel que l'entrée dans le langage est difficile.
Et il me reste encore des petites questions, si on a le temps, surtout autour des croyances, en fait, sur le langage, de tout ce qui est un petit peu le bilinguisme, les familles qui nous demandent des fois est-ce qu'il vous parle dans notre langue ? Est-ce qu'on doit lui parler français à la maison quand voilà, on a une autre langue à la maison ? Un petit peu ces questionnements-là sur comment on peut accompagner les parents qui ont plusieurs langues dans leur quotidien.
Alors, il faut déjà savoir, il y a une grande fausse croyance qui est là. Les enfants bilingues parlent de façon plus tardive. Non, absolument pas. Hein. C'est vraiment une fausse croyance, ça n'est pas vrai. Donc, il faut se dire, et moi c'est ce que je dis souvent aux parents qui m'interrogent sur le bilinguisme, il faut se dire qu'il faut qu'ils fassent ce qui leur parle. C'est-à-dire que si les parents leur parle dans leur langue maternelle qui n'est pas le français, et bien qu'il continue finalement. Il va être exposé au français dans toutes les autres dimensions, à la crèche, en se promenant. Si les parents veulent parler les deux, ils peuvent aussi le faire. C'est vrai que pendant un temps, on disait même un parent, une langue. Si les parents sont à l'aise avec ça, c'est OK. En fait, finalement, il n'y a aucune bonne façon d'être bilingue. C'est-à-dire que c'est ancré en eux. Donc vraiment, moi, ce que je dis aux parents, mais même aux parents qui ont une seule langue, faites selon votre instinct. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les enfants bilingues ne développent pas leur langage de façon plus tardive. C'est juste qu'ils développent deux langues en même temps. Donc, si on parle d'un enfant, par exemple, qui a 18 mois, qui doit avoir en moyenne 50 mots. Donc, pour un enfant qui va parler, par exemple, seulement le français, il va avoir 50 mots en français en moyenne. Pour un enfant bilingue, on va compter les mots dans les deux langues. Donc forcément, on va avoir une impression de retard, mais non, en fait. C'est juste que ça se construit ensemble dans les deux langues.
Oui, donc ça se cumule en réalité. Totalement. Ça se dissocie pas.
Toujours autour des croyances, en fait, un petit peu sur tout ce qui est l'utilisation de la tétine à outrance ou de l'allaitement tardif, ou tout ce qui est les écrans au quotidien. Enfin voilà, un petit peu toutes ces croyances sur qu'est-ce qui pourrait avoir un impact ou non sur...
Alors, on va parler peut-être de la tétine. Est-ce que la tétine peut freiner le développement langagier ? Oui, bien sûr, si l'enfant parle uniquement avec la tétine dans la bouche, eh bien, on en parlait tout à l'heure, mais ça va avoir un impact sur l'articulation. Pourquoi ? Parce que la langue ne va pas pouvoir être mobile. On imagine, voilà, qu'on a une tétine dans la bouche, on essaye de parler, forcément, on ne va pas pouvoir parler de la même façon. Donc, effectivement, la tétine, on essaye de la limiter au temps de dodo, de sieste, quand vraiment l'enfant est trop fatigué. Mais dès tout petit, moi je dis souvent aux parents, mais dès tout petit, on prend l'habitude dans les moments où on parle avec l'enfant, dans les moments où il est en train de jouer, de vivre, d'éviter un maximum la tétine.
Merci beaucoup Léa pour tous ces éclairages aux questions de Mélanie. Merci beaucoup Mélanie. Merci. Pour votre témoignage. Donc Léa, on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode où justement on va détailler ensemble quelles sont les différentes étapes du développement du langage chez l'enfant et comment en tant que parent on peut accompagner, soutenir au mieux. À la semaine prochaine.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture !